entendu ?
Ah si, pardon, d'habitude c'est toi.
Mais non, justement, l'intérêt là, c'était que c'était toujours moi l'intérêt, c'était que c'est toi qui lançais du coup.
Ah oui, c'est vrai, excuse-moi.
Non, mais j'ai essayé.
Excuse-moi. Bon, c'est le lancement de Et alors le plus pourri que l'on vous ait fait, chers auditeurs. Mais Christophe et moi attendions chacun que l'un ou l'autre parle suite à ce super générique qui sonne le rendez-vous du vendredi soir, tous ensemble pour parler culture, cinématographie, lecture, musique. Voilà, bah écoutez, bienvenue à tous dans Et alors, en ce vendredi, on est le combien ? 3, 4, 5 avril. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Et alors. Ça va Chris ? Comment tu vas ?
Ça va, bonsoir tout le monde, ça va très bien, bonne semaine, tranquillou, plein de trucs, une semaine de sport, de rencontres et de lecture. Donc c'était bien.
Ah, une belle semaine donc. Bon, et toi, tu es fier de ce lancement magnifique et inédit d'ailleurs, je pense. Je pense que c'est du jamais vu sur une antenne radio ou un podcast ou même une antenne télé.
Non, de mémoire, non, ça s'est jamais arrivé. On a fait des lancements pires, hein, mais non, c'est juste, de mémoire, non, c'est jamais arrivé. Tiens, tu parlais de radio, il faut préciser hein, que dorénavant, notre émission est aussi diffusée sur deux radios, Radioverse, que vous retrouverez sur internet radioverse.fr, tous les vendredis à 18h, donc vous pouvez l'écouter aussi en direct via la radio, et c'est diffusé sur une autre radio, une radio locale à Paris, dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qu'on mettra les coordonnées de la radio sur le site internet. Je m'en excuse. J'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur.
Mais non, personne ne s'en tient rigueur. On est là pour s'amuser, pour rigoler. Et bien sûr, on leur refera de la pub dans un très prochain épisode. Bien, eh ben écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite et moi je te propose de parler du programme. Alors ce soir, je te propose qu'on parle dans l'instant culte du film que je t'ai fait regarder, Sam, je suis Sam.
Ouais, et ensuite on parlera encore cinéma avec le film Heureux gagnant.
Et enfin, on finira par parler un peu lecture et parler du film Les animaux héros de notre histoire. Et on vous parlera également d'un nouveau projet qui va éclore et un petit teaser vous sera annoncé dans les semaines à venir, donc restez branchés. C'est bon pour toi, Ktof ?
C'est nickel.
Eh bien, écoute, je te propose de lancer notre super générique que tout le monde nous envie et de démarrer l'instant culte.
Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Alors, tu vois, on parlait de lancement pourri, mais là, je viens de rater le jingle puisque j'ai oublié de remettre le son à fond. Donc, jingle.
Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Ah, ben effectivement, un lancement qui est, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux. Merci, Toff. Bon, alors, écoutez bien, vous commencez à me connaître, je suis sûr, de l'autre côté de votre appareil de diffusion, de votre podcast. Voilà, cette semaine, le 2 avril plus exactement, sonne la journée mondiale de l'autisme. Et donc, pour ça, j'ai infligé à Christophe de regarder un film qui s'appelle Sam, je suis Sam, avec Sean Penn et Dakota Fanning. Bah écoute, Christophe, je te laisse pour l'instant culte pitcher ce film et nous dire un peu ce que tu en as pensé.
Ouais, donc c'est l'histoire d'un autiste qui est père, qui devient père d'une petite Alice, et la mère ne supporte a priori ni la naissance de cette petite fille, ni son mari autiste, et au lieu de rentrer avec le bébé chez elle, bah, laisse le bébé au père, qui s'appelle Sam, donc, et s'enfuit dans la foule, dans la foule, dans la foule. Elle s'enfuit. Sam élève un petit peu la petite pendant, je ne sais pas, 3-4 ans, peut-être même plus, 8-9 ans, je ne sais plus
7
exactement.
Ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, voilà.
7 ans. 7 ans, et puis juste à ce que les services sociaux s'en mêlent, à ce moment-là, les services sociaux veulent placer la petite dans une famille normale, entre guillemets, et qu'elle n'ait plus contact avec le père. En tout cas, qu'elle ne vive plus toute seule avec le père.
Et pourquoi elle ne peut plus vivre avec son père, c'est que son père a une déficience qui lui donne, malgré son âge avancé, l'intelligence intellectuelle d'un enfant de 7 ans. Et donc aujourd'hui, aux 7 ans révolus de l'enfant, la petite fille en fait surpasse son père sur tous les domaines. Et donc il est décrété inapte à élever sa fille par les services sociaux. Bah écoute, c'est un bon pitch. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film que je t'ai infligé, je crois?
Ben voilà, ça, tu as dit deux fois infligé, et moi, je n'ai pas du tout aimé le film. D'abord, il fait partie de cette catégorie de films dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions. C'est un film à César. Donc, c'est un film
Ah,
qui
ça,
lorgne les
Zéra, Oscar a
Césars.
pris. Hein.
À
Un film
Oscar,
a
pardon,
pris,
excuse-moi.
effectivement. Hein.
Un film a pris.
Pour ce film, Sean Penn a été nommé aux Oscars 2002. On a Dakota Fanning hein, qui joue la petite fille. Son premier film, d'ailleurs, cette actrice qui ensuite a bien émergé, a raflé un tas de prix, meilleur espoir, meilleure jeune actrice, dans plusieurs prix nobles du cinéma hollywoodien. Juste pour le rappeler, je t'écoute.
Ouais, Sean Penn n'a rien eu et c'est bien, tant mieux, parce qu'il est minable dans ce film. On avait vu il y a 15 jours l'actrice qui joue la séduction avec la bouche ouverte dans un film Un homme d'exception, pardon. D'ailleurs, il me semble hein, qu'il a concouru à la même année pour le César. Faudrait que je
L'Oscar,
vérifie
l'Oscar,
pour
l'Oscar. Le
l'Oscar. Oh
César,
bordel.
c'est en France.
Excuse-moi.
Je sais que tu es
Ouais.
quelqu'un de très chauvin, mais bon, rendons à César ce qui est à César et donc les Oscars.
Les Oscars, je me l'imprime dans ma tête. Et là, donc, après la meuf qui ouvre la bouche tout le film pour jouer la séduction, on a le mec qui ouvre la bouche pour jouer l'autiste. C'est terrible à voir. C'est très malaisant comme film. Et j'ai pas, j'ai, ouais, bah, j'ai, moi, j'ai pas aimé du tout ça. Donc, le jeu de Sean Penn est nul. Au-delà, le scénario, il pousse à la larme. Larmoyant au possible. Enfin, rien ne va dans ce film. Et puis, on voit que c'est un film de commande aussi. Non seulement un film à prime, mais un film de commande. C'est-à-dire qu'il s'est, il est, il s'est monté grâce à des subventions de Nike, de Starbucks, de Huggies. Donc, il n'y a pas. Tous les deux plans, tu as une publicité, quoi. Et qui tombe, mais comme
Bon,
un cheveu
allez.
sur la soupe.
Bon,
Le
je te
générique à
trouve
ce
un petit
titre.
peu,
Ouais,
je te
vas-y.
trouve un petit peu fort de café hein, pour rebondir sur le Starbucks. Bon, je peux entendre certains de tes arguments. Je trouve que tu tapes un peu facilement sur les productions hollywoodiennes quand même, sans y voir les bons attraits. Je peux pas être d'accord avec toi sur le jeu de Sean Penn. Alors, bon, moi, je dois le dire, c'est un film de mon enfance. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai découvert quand j'avais entre 10 et 15 ans. Donc, du coup, forcément, c'est une histoire qui m'a touché. Ayant en plus dans mon entourage des personnes autistes, je trouvais que ça rendait un bel hommage. Donc, j'avoue que je te trouve un petit peu dur pour le coup sur ce film.
Alors
Tu
là, je
l'étais
t'avoue
déjà un
pas.
peu sur Un homme d'exception, mais bon, pour le coup, je pouvais le comprendre. Là, je te trouve vraiment très dur.
Alors moi, je te coupe déjà sur ce que tu as dit tout de suite. Tu dis que tu as eu des que tu as des personnes dans ton entourage qui sont autistes. Moi aussi, j'en ai. J'en connais deux qui ont été diagnostiqués autistes. Et ce film ne rend pas hommage. Hein, je suis désolé. Hein.
Ah ben moi je
Un
suis
homme
pas d'accord.
d'exception, ça leur rend plus hommage que même si c'était super mal joué par Russell Crowe qui se grattait le front pour montrer que oulala, oulala, il a un problème psychologique, ce film-là ne leur rend pas hommage par le jeu, j'allais dire ordurier, tu vois, par le jeu ordurier de Sean Penn.
Ah ben moi je suis bah voilà on sera pas d'accord hein. Moi je trouve que Sean Penn justement joue très bien alors peut-être qu'il surexpose un peu il surexpose un peu le trait autistique alors ça je peux te l'accorder mais je pense que c'était aussi un message fort qu'a voulu envoyer la réalisatrice dans le sens où ben voilà c'est mettre la lumière aussi sur le fait que ben, un handicap ne nous fait pas paraître moins humain qu'un autre. Et pour ça, il lui fallait une vedette star. Et oui, je l'avoue, elle a choisi Sean Penn. Ça aurait peut-être été bien aussi de choisir une vraie personne à trait autistique, et c'est peut-être là où tu veux en venir. Mais je pense que pour que le film ait un réel poids, avoir une star de renom qui était Sean Penn, enfin, qui l'est encore aujourd'hui, mais qui l'était davantage dans les années 2000, je pense que ça a vraiment servi la cause pour le coup.
Oui, je te rejoins, c'est mon côté woke, effectivement. Dans Le huitième jour, un film français avec Daniel Auteuil, la personne handicapée était vraiment handicapée.
Tout à
Et même
fait.
si le film était dur, j'avais pas ce petit côté malaise que j'ai eu quand j'ai regardé Sam, je suis Sam. De voir un adulte, j'allais dire un adulte valide, jouer l'autiste, ben, moi ça me gêne en fait. Mais ça m'a gêné tout le long parce que tu vois qu'il joue. Et je trouve que c'est un crachat que tu fais aux gens qui ont des troubles mentaux, quels qu'ils soient. C'est mon
D'accord,
côté woke.
je peux. Ouais, peut-être, je peux l'entendre. Après, bon, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, effectivement, le huitième jour, donc après, ce n'est pas de l'autisme, hein, dans le huitième jour, c'est de la
Non.
trisomie 21.
Oui.
Et on sait qu'il est plus facile de diriger des acteurs atteints de trisomie 21, tout comme leur faire faire du sport, leur faire faire des activités, plutôt que des personnes atteintes d'un lourd autisme. Je parle de lourd autisme comme il est indiqué en tout cas dans le film avec Sean Penn. Je rappelle le titre, hein, pour ceux que ça intéresse et que ce débat vous avez envie de le trancher. Sam, je suis Sam.
Ouais, mais moi je t'oppose l'argument du journal Papotin, qui est fait par des autistes, lourds aussi, et qui s'en sortent, quoi. Il y a même une série, je crois, qui passe sur France 2, où tu les vois interviewer des gens, des acteurs, des hommes politiques, etc. Ils ont même interviewé Macron et lui ont demandé si c'était normal qu'il se marie avec sa prof.
Oui, non, mais
Tu vois?
je
Donc
comprends. Mais je
c'est
comprends ce que
possible,
tu
quoi.
veux dire, mais il faut aussi recontextualiser. Aujourd'hui, si on faisait un film sur le même sujet qui s'appelait aussi Sam, je suis Sam, je pense qu'on offrirait le rôle à une personne avec un trouble autistique. Il faut recontextualiser. On est au début des années 2000 et c'était pas du tout dans la tendance. Alors, c'est pas avant-gardiste de ne pas le faire et je suis d'accord avec toi, mais on peut beaucoup moins le reprocher qu'on pourrait le reprocher aujourd'hui, je pense.
Alors sur ça, je te suis effectivement. Quand on sait que dans les années 80-90, dans le cinéma français, tous les rôles tous les rôles d'arabes étaient faits par des Français, ballants,
Oui,
on
oui.
peut, on, je te rejoins sur ce contre-argument alors.
Bon, ben, vous l'avez compris, en tout cas, Sam, je suis Sam, un film qui divise. Donc les réacs n'aimeront pas, les personnes sensibles et sensées aimeront mieux. Est-ce que c'est un bon...
Bah écoute, c'est la première fois que je vous fais traiter de réac. Mais d'accord, je le prends. Écoute, c'est pas grave.
Ah bah, il faut un début à tout. Non, bien sûr, je plaisante. Hein, on permet de se taquiner parce qu'on se connaît bien avec Chris et qu'on aime aller se chercher. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si ça vous tente, voilà, de voir un Sean Penn dans le début des années 2000, donc jouer un rôle autiste, hein, alors qu'il ne l'est pas. Mais voilà, pour la sauvegarde de la garde justement de sa fille, n'hésitez pas à aller voir ce film. Sam, je suis Sam. Et n'hésitez pas aussi sur les réseaux à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bien, je te propose pour détendre un peu l'atmosphère, sauf si tu as autre chose à dire, de te lancer un petit quiz, de te lancer un petit défi.
Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ben j'ai toujours des trucs à dire. Mais c'est peut-être l'objet de ton quiz. Alors je ne vais rien dire et on va voir les questions que tu poses. On verra à la suite
Voilà.
si.
Et
Vas-y, t'allais.
tu
Ouais,
rebondiras
au
après.
cas où.
Bon, déjà, on va le dire, hein, un film à prix, et ça, je te rejoins là-dessus, hein, on veut faire du cinéma pour aller rafler des prix et se donner un nom, je suis d'accord avec toi. Et donc, justement, cette année-là, qui a été sacré meilleur acteur et pour quel film? Donc, je rappelle, c'était en 2002. Sean Penn a été nommé aux Oscars, mais n'a pas eu l'Oscar. C'est quelqu'un d'autre qui lui a raflé l'Oscar. Et qui était-ce et pour quel film?
Alors, c'est pas Russell Crowe?
Non, c'est pas Russell Crowe,
Alors, c'est
c'était pas pour un
Denzel
homme d'exception.
Washington.
Exactement, bien joué, très très fort. Et pour quel film?
C'est pour un film qui raconte sa première journée dans un commissariat en tant que flic. Il fait équipe avec un mec, une pourriture de flic, qui ment, qui vole, qui tue, enfin, qui fait n'importe quoi.
Alors,
Et à la fin, il se demande.
ça
Et ça
s'appelle
s'appelle, j'ai
Training Day,
oublié.
tu as raison. Training Day, mais
Training Day.
tu inverses complètement les rôles. C'est
Pas
Ethan
du tout.
Hawke qui fait sa première journée et c'est Denzel Washington qui joue le flic au début en apparence complètement fort et complètement à fond sur son métier et qui finalement s'avère être la pire des ordures.
Ah, eh ben, comment j'ai fait pour confondre les deux, je ne comprends pas. Ok, c'est noté.
Et oui, c'est bien Ethan Hawke qui joue le jeune flic et Denzel Washington, le flic qui trempe dans les cartels, les magouilles et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est effectivement lui qui a chopé pour le film Training Day, qui fera sans doute un jour l'affaire de l'instant culte. Ça nous permettra, pardon, de le regarder de nouveau. Bah écoute, j'ai une autre question. Mais Sean Penn, par contre, 2 ans plus tard, il a décroché cet Oscar, tant mérité, cette statuette, et pour quel rôle?
Alors là, c'est une colle.
C'est
Alors,
vrai,
c'est
une
un
vraie
film,
colle.
ouais, une vraie colle. Donc, c'est un film.
T'évites de tricher, hein.
Promis, je ne triche pas. Est-ce que c'est un film larmoyant?
Alors, c'est un film larmoyant. Oui, c'est un film larmoyant, mais il n'est pas à la base fait pour être un film larmoyant. C'est un vrai drame, sans aucune once de comédie, qui a été réalisé par un homme qui aime beaucoup, beaucoup les Oscars.
La liste de Schindler?
Non, pas du tout. Ah non, non, ça n'a pas été
C'est Spielberg?
réalisé par.
Non?
Non, non, pas du tout par Spielberg. Quelqu'un qui est beaucoup plus, comment dire, sur le ton politique. C'est un homme qui
Ah,
sait,
oui.
qui, oui,
Je
vas-y.
vois qui c'est. Oh bordel, il a fait le film sur les deux hommes politiques qui s'affrontent lors d'un débat télévisé. C'est bien ça? Comment il
Ah
s'appelle?
non, c'est pas lui.
Ah
Non, non, non.
zut.
C'est une ancienne star de western devenue réalisateur.
Ah, oh, bah, alors, d'accord, alors c'est pas Newman, c'est au bordel.
Ah, celui-là, je te le donnerai
Oui,
pas
je
quand
l'ai,
même.
je
Il
l'ai.
faut le
Non, 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 je
trouver.
l'ai. Clint Eastwood.
Clint Eastwood, exactement. Et donc,
Donc,
pour
c'est un
quel
film de
film?
Clint Eastwood, alors, dans quoi il a
Ouais,
joué.
exactement. Allez, je te fais le pitch un peu. Comme ça, je
Ouais,
vois
vas-y,
si tu l'as
ouais.
vu. Je te fais le pitch un peu. Je vois si tu l'as vu. Parce que c'est vrai qu'il a décroché des Oscars, mais pas forcément très connu sur le territoire français. Donc, c'est l'histoire de quatre amis qui s'amusent lorsqu'ils ont une quinzaine d'années. Et l'un d'eux se fait enlever et retrouver des semaines plus tard.
Mystic
Et ça.
River.
Voilà, exactement, très bien. Mystic River, un très beau film de Clint Eastwood et un Sean Penn. Donc là, si tu l'as vu, si tu le connais, un Sean Penn vraiment incroyable en ancien caïd du quartier.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu le livre,
Ah
qui est énorme, le livre, et j'ai pas voulu. Du coup, le livre m'a tellement marqué que du coup, j'ai pas voulu voir le film.
Eh ben, je te conseille de regarder ce film parce qu'il est vraiment. Il y a une pléiade d'acteurs qui sont bons. Hein. C'est Kevin Bacon, grand acteur de l'époque également. Et Sean Penn en tête d'affiche. Pardon. Laurence Fishburne aussi dans un rôle de policier qui se retrouve mêlé à cette histoire parce que Kevin Bacon joue son collègue policier qui était l'un des quatre enfants à l'époque. Et donc qui se retrouve mêlé à cette histoire de meurtre parce que j'ai pas fini de pitcher, mais des années plus tard, en fait, la fille de Sean Penn, justement, est retrouvée assassinée alors qu'elle a 18 ans. Et donc, du coup, il faut retrouver absolument le coupable. Les quatre amis qui se connaissaient lorsqu'ils avaient à peu près l'âge où est morte la fille de Sean Penn, en fait, se retrouvent obligés, en fait, de renouer des liens pour dénouer cette histoire.
Ouais, moi, je conseille le livre aussi.
Voilà. Bah, écoute, moi, tu vois, je n'ai jamais lu le livre, mais j'ai uniquement vu le film. Et ben, je crois que je vais aller plonger dans ce livre.
Mais on échange. Tu lis le livre, tu regardes le
Voilà.
film.
Et voilà. Et on fait un. Et ensuite, on rééchange là-dessus. Pareil, un film qu'on mettra très certainement soit dans un instant culte, ou alors on pourrait faire notre nouvelle émission qu'on est en train de vous préparer avec Clint Eastwood en trame de fond. Ça peut être intéressant aussi, qu'est-ce que tu en penses? Un
Ah, c'est
réalisateur, tout ça.
super, ouais. Excellente
Ouais.
idée.
Voilà. Bon, ben bah,
Je suis
écoute, hein, c'est
partant.
voilà, c'est en discutant et en faisant ces émissions qu'on fait ça. On vous en dira plus un peu plus tard. Allez, une autre question. On passe à la suite, on essaie d'aller un peu plus vite. Dakota Fanning, donc, qui joue la petite Lucie dans le film Sam, je suis Sam, lorsqu'elle a 7 ans. Mais on voit également une autre actrice jouer la petite Lucie lorsqu'elle a 4 ans. Est-ce que tu sais qui joue Lucie lorsqu'elle est plus jeune, avant Dakota Fanning?
Alors, je l'ai lu dans la liste des acteurs et des actrices en l'occurrence, mais ça ne m'a pas frappé. Est-ce que ce n'est
Oh,
pas
bah,
sa
faut pas aller
sœur?
chercher très loin. Eh ben,
Ce n'est pas sa
exactement, c'est
sœur,
tout à
c'est
fait ça.
ça?
C'est sa sœur, de 4 ans de moins, qui avait donc 3 ans
Elle
et demi ou
Fanning,
4 ans à
ça me
l'époque.
revient.
C'est Elle Fanning, exactement. Elle Fanning, voilà, qui aussi a continué sa carrière un peu plus tard. T'es bon, tu es fort, tu es fort. Bien joué. Mais je vois que tu t'es renseigné un peu sur le film, car tu sais que je vais te poser des quiz.
Eh oui, j'ai regardé l'affiche.
Allez. Bon, eh ben alors je t'en pose une autre en essayant de cette fois réussir à te coller. Ce film permettra justement à l'excellent jeu de Dakota Fanning de rejoindre Denzel Washington, qui, rappelons-le, avait réussi à avoir l'Oscar du meilleur acteur en 2002, sur un projet 2 ans plus tard, donc en 2004. Est-ce que tu sais quel est ce projet ?
Non, c'est une vraie colle là encore.
Voilà, le seul film qui a réuni Dakota Fanning et Denzel Washington à l'écran. Donc à l'époque, là, elle avait quasiment 10 ans, donc une petite fille un petit peu plus âgée. Avec une histoire cette fois d'enlèvement.
Ah non, alors là, j'ai rien du tout dans la tête.
Ouais, je te donne la réponse.
Ouais, vas-y, vas-y,
et je suis content de t'avoir collé. Donc c'est un film de... Oh, j'ai perdu son nom, celui qui a réalisé les Transformers plus tard, Michael Bay. Voilà. Excusez-moi. Je crois que c'est Michael Bay, d'ailleurs, tu me le confirmeras en faisant une recherche ultra rapide. Et le film, c'est Man on Fire.
Tony Scott, le réalisateur.
Qui a réalisé le film. Et Tony Scott en réalisateur. Ben, je suis étonné, j'étais persuadé que c'était Michael Bay ou Michael Mann, je ne sais plus. Bref, bon, je me suis trompé. J'en suis désolé pour ceux qui avaient déjà la bonne réponse. Bon, ben, écoute, voilà, un petit quiz de 3 questions. Tu as su répondre à deux et demi sur trois. Hein, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal, ouais, je suis content.
Ça s'entend, ça s'entend. Et du coup, est-ce que tu as envie de rebondir à nouveau sur ce film ou sur le casting qui est Sam, je suis Sam, je le rappelle, dans notre Instant Culte, ou est-ce qu'on passe à la suite?
Non, je voulais juste dire que moi, j'étais pas content avec le film parce que je trouve que c'est un mauvais film, mais le message est bon. Ils ont même fait des grosses recherches dans un centre autistique à Los Angeles pour travailler sur le scénario, etc. Donc le message est bon, mais le film est mauvais. C'est juste ça que je voulais préciser sur ce.
Et de mémoire, je crois d'ailleurs que Sean Penn a passé lui-même un temps seul avec des gens autistes dans le centre dont tu parles.
Tout à fait.
Voilà. Eh ben super. Ben écoute, bon voilà, 2 avis divisés. À vous de vous faire votre avis. J'espère que vous avez aimé les questions et su y répondre. Ben écoute, je te laisse lancer la suite.
Ça marche. Qu'est-ce que tu penses d'une petite pause musicale ?
Allez, une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Björk, Bachelorette.
On regarde quoi, tonton ?
Alors, on regarde quoi ? On regarde Euregagnant, c'est bien ça ? James, tu l'as vu, Euregagnant ?
Exactement, oui, je l'ai vu.
Bah, tu nous fais le pitch et tu nous dis ce que tu en as pensé, puis après j'enchaîne.
Allez, je te fais un petit pitch. Bah, c'est un film sorti le 13 mars dernier, donc il n'y a vraiment pas longtemps, avec en tête d'affiche Fabrice Eboué et Audrey Lamy. Voilà, bah, c'est un film à histoire dramatique, donc quatre histoires différentes tout au long du film sur qu'est-ce qu'il arrive aux gagnants des grosses sommes de loto. Et donc du coup c'est des histoires tirées à l'extrême, donc il y a une histoire sur un couple qui découvre un couple en crise qui découvre qu'à 5 minutes de la fin des validations des tickets ils ont gagné une grosse somme, mais que ils ont à peine une heure pour aller faire valider du coup le ticket dans le centre de la Française des Jeux le plus proche. Donc s'ensuit une course poursuite et des engueulades à tirer l'arigot. On a une autre histoire sur des terroristes, trois terroristes qui s'apprêtent à commettre un attentat et qui découvrent juste avant de se faire exploser qu'ils ont gagné le gros lot. Donc là, qu'est-ce que fait un terroriste à ce moment-là? Et puis l'histoire d'une femme qui gagne au loto, qui essaie de trouver l'amour depuis X temps, puis qui n'y arrive pas. Et là, forcément, l'amour lui tombe dessus au moment où elle va faire valider son ticket. Alors, est-ce un coup du hasard ou une entourloupe bien menée? Et la dernière histoire, c'est sur une personne dans un EHPAD qui en validant son ticket, une vieille personne, est tellement surprise qu'elle meurt d'une crise cardiaque. Et donc le choix des personnels soignants et de savoir ce qu'ils vont faire de ce ticket gagnant qu'ils ont désormais entre leurs mains.
Super, super détaillé comme pitch. Moi je dirais, je mettrais mon grain de sel en disant que Fabrice Eboué n'est pas la tête d'affiche. En tout cas, c'est peut-être le produit d'appel pour que les gens aillent voir le film, mais pour moi il n'y a pas de tête d'affiche, quoi. C'est quatre histoires qui sont autonomes l'une de l'autre, avec juste comme point commun les personnages ont gagné au loto et basta, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne analyse. Ouais, quand je disais tête d'affiche, c'était vraiment pour dire voilà, c'est lui qui fait les promos avec Audrey Lamy, c'est eux qui font vendre des tickets et qui font venir dans les cinémas. C'est les seuls à avoir aussi leur histoire coupée en deux, donc c'est le début du film et la fin du film.
Ouais, tout à fait, exactement. Qu'est-ce que t'en as passé ? T'as passé un bon moment ?
J'ai passé un très très bon moment, parce que j'ai ri parfois, j'ai été... très étonné par les choix des réalisateurs sur la fin des histoires, mais j'ai trouvé ça vraiment très audacieux, très culotté. Voilà, on va voir ce film des fois en se disant bon, c'est peut-être une comédie, mais en fait pas du tout, et c'est pas tout est bien qui finit bien, mais plus tout est bien qui finit mal dans chacune des histoires. Donc c'est assez intéressant et c'est assez déboussolant. On n'a pas l'habitude de voir un film comme ça.
Alors, je suis d'accord avec toi, ouais. On n'a pas l'habitude de voir ça. Je trouve que ça va très loin dans la noirceur. Moi, le film est bien, hein. Les acteurs, ils sont parfaits. Il y a des moments drôles, même quand c'est dur. Faut aller voir ce film. Moi, je le conseille. Par contre, si on gratte un peu, ce qui m'a gêné, c'est le message derrière, quoi. J'ai l'impression que le message, c'est reste pauvre, tu auras moins d'emmerdes. Ouais, mais l'argent, il est fait pour les riches et pas pour les pauvres. Tu ne seras pas à le gérer si tu deviens riche.
C'est plus l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai envie de dire. C'est juste pour reprendre cet adage-là.
Ouais, l'argent ne fait pas le bonheur pour les pauvres. Moi, c'est ça le message du film, à mon avis. Hein. C'est ça qui m'a un petit peu gêné.
Oui. Non, mais c'est qu'on est dans un monde où tout le monde court après l'argent. Et je trouve, on va donner le nom des réalisateurs, hein, qui pour moi, voilà, on fait quand même quelque chose de très audacieux. Hein. Maxime Govard et Romain Chouet. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce exactement et j'en suis désolé. Mais ils ont fait quand même quelque chose d'innovant et je pense que c'est une belle satire de la société. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Voilà. Alors, oui, des fois, c'est poussé un peu à l'extrême. C'est un peu sombre. Il faut oser, hein, quand même. aller mettre sur le devant de la scène trois terroristes dans des temps comme aujourd'hui, mais voilà, avec un message qui derrière pour moi, ben, c'est pas vraiment le même message que j'ai compris que toi. Moi, c'est plus voilà, aujourd'hui on est dans une société où on court après l'argent, mais quand on a de l'argent, est-ce que vraiment on est heureux et est-ce que on a la vie à laquelle on a la vie qu'on attendait, pardon. Et j'ai vu aussi, enfin, je vois aussi un peu un message de ben, quels que soient les péchés que tu aies faits, même si demain tu deviens ultra riche, et ben ils te rattraperont toujours.
Oui.
Il est assez pessimiste. Pas. Je trouve que c'est un film assez pessimiste.
Mais au-delà de ça, je conseille le film quand même parce qu'il est bien.
Ouais. Oui. Voilà. Et puis non. Et puis c'est des histoires qui malheureusement pourraient arriver tous les jours. Donc c'est enfin tous les jours. Il y a pas autant de gagnants tous les jours, mais c'est intéressant de voir et de pousser à l'extrême. En fait, moi c'est ça. C'est là où j'ai envie de dire merci à Maxime Govard et Romain Chauet, c'est de réussir à pousser à l'extrême des scénarios. Je trouve qu'on n'y arrive pas assez aujourd'hui dans le cinéma. On en a déjà parlé, hein, justement, dans cette émission, mais des fois, on est trop restreint, on est trop gentil, on n'ose pas dire les choses. Et ben, eux, ils ont osé aborder des sujets complexes et vraiment les tirer à l'extrême. Allez, j'ai une petite question avant de clôturer le chapitre de Regagnant, sauf si tu as autre chose à dire derrière encore.
Rien.
Je me suis renseigné. Et j'aimerais que tu me dises ce qui arrive à 50% des gagnants des grosses sommes d'argent comme ça, Euromillion, Loto, Keno, tous ces jeux de la Française des Jeux. Est-ce que tu sais ce qui arrive à 50% des gagnants?
Ils perdent tout, ils redeviennent smicards.
Alors, smicard, pas forcément, parce qu'on est pas, il n'y a pas que les smicards qui gagnent au Loto, mais
ils redeviennent ce qu'ils étaient avant.
Voilà, exactement. Et c'est vrai. Et ça, c'est un chiffre moi qui m'a sauté aux yeux, mais j'ai été me voir sur le site de la Française des Jeux. Et c'est vrai qu'il y a des articles là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils mettent des cellules psychologiques en place. 50% des gagnants sont ruinés. Et attention, en combien de temps, tu dirais?
Oh, bah, j'espère en plusieurs décennies, non? Ne dis pas que c'est en 6 mois.
10 mois.
Un an? 2 ans?
Ah, non, plus.
Ah ouais, 6-5 ans?
Ouais, 4 ans, un peu moins, tu vois, people entre les deux. Donc 50% des gagnants, et écoutez bien, donc si un jour vous avez la chance de gagner, ne faites pas partie de ces 50%-là, je vous en supplie, placez votre argent intelligemment et ne le dépensez pas à volo, en voiture, yacht de luxe et escort girl qui vont avec. Hein. C'est-à-dire 50% des gagnants sont ruinés dans les 4 ans qui suivent leurs gains.
Tu dis quoi, toi?
Eh bien, moi, je lis quoi? Je lis un super livre qui s'appelle Les animaux héros de l'histoire. Donc, un livre de Jean-Baptiste Patier, qui est un historien, et illustré par Emmanuel Chaunu, qui est bien connu du monde des illustrateurs. Alors, de quoi parle ce livre? C'est un livre qui retrace les animaux héros dans l'histoire, donc en fait, qui nous permet de voir qu'en fait, l'être humain sans l'animal n'aurait pas remporté beaucoup de guerres et n'aurait pas évolué comme il a évolué aujourd'hui. Et c'est là où je veux tirer mon chapeau à ce livre que j'ai dévoré, voilà, qui traverse les siècles, les âges, et qui nous montre comment des chevaux, des chiens et n'importe quel animal sur Terre, même des éléphants, sont entrés dans l'histoire et ont réussi à être, pour moi, en tout cas en mon sens, oubliés alors qu'ils sont les réels vainqueurs de toute cette évolution. Est-ce que tu as lu le livre, Chris?
Alors moi, j'adore ce genre de livre parce que tu rentres dans la grande histoire par la fenêtre. Tu vois, tu t'attends pas à rentrer dans l'histoire avec ce genre de livre et pourtant t'es en plein pied, quoi. T'es de plein pied, t'es dans les batailles, t'es au front et tu te rends pas compte. Et t'apprends des choses sur l'histoire avec un grand H par une petite anecdote qui tout d'un coup te remet tout en place dans la tête. Et tu retiens le tout. Non, c'est le genre de livre que j'adore, vraiment.
Voilà. Et c'est toujours des anecdotes très courtes parce que quand Emmanuel Patier, je vous dis des bêtises, quand Jean-Baptiste Patier va s'intéresser à un animal héros de l'histoire, il va en parler pendant 2-3 pages maximum. Donc c'est vraiment très court. Mais par contre, il va nous retracer toute la vie de cet animal. Je pense notamment au cheval d'Alexandre le Grand, voilà, hein, qui avait bien plus de valeur aux yeux de ce conquérant que beaucoup d'humains sur Terre. Et on voit que sans ce cheval, il aurait eu du mal à faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est plein de petites histoires comme ça sur des animaux connus ou méconnus. Hein. Il va y avoir des animaux qu'on va avoir connus par rapport à des faits historiques et d'autres que moi, je ne connaissais pas du tout. Et ça a été très intéressant. Donc, c'est des petites histoires très courtes qui sont rassemblées dans des chapitres. Donc, un chapitre sur les chevaux, un chapitre sur les chiens et ainsi de suite. Et voilà, c'est vraiment un livre qui se lit très facilement et qui nous apprend plein de choses. Alors, on ne les retient pas toutes forcément, mais demain, à un dîner, on nous parle d'un animal, par exemple du cheval d'Alexandre le Grand, ben on va être capable de sortir une anecdote. Et moi aussi, j'aime bien ces livres qui nous permettent, en fait, ben, de temps en temps, je n'ai pas envie de dire briller, mais de nous montrer un peu en société et d'étaler un peu notre culture.
Ouais, super, super livre.
Et c'est là où moi, je tire mon chapeau aussi à Jean-Baptiste Patier, c'est qu'il arrive vraiment à donner la part belle à des choses méconnues de l'histoire, mais qui pourtant ont une importance capitale dans notre évolution et dans la suite des événements à cette époque.
Super. Eh ben, on mettra les liens voilà. Sur... Oui.
Alors, je disais, les illustrations donc, d'Emmanuel Chaunu sont aussi vraiment assez... Alors, certaines sont humoristiques, d'autres sont vraiment très, très poétiques et c'est vraiment un très beau travail du duo. Alors, je ne sais pas réellement... Alors, pour vous tout vous dire, hein, chers auditeurs, c'est qu'on a essayé d'avoir Jean-Baptiste Patier et Emmanuel Chaunu en interview, justement. Malheureusement, nos emplois du temps ne concordaient pas, mais on ne désespère pas. On a décidé quand même de parler de leur livre sur l'antenne pour vous donner envie. Et c'est vrai qu'on ne désespère pas de les avoir parce que je ne saurais pas dire si aujourd'hui Emmanuel Chaunu a uniquement fait l'illustration ou a aidé dans ses recherches Jean-Baptiste Patier. Je ne sais pas si toi, tu as l'info, Chris.
Non, je ne sais pas quelle est la part de travail, s'ils ont choisi les histoires ensemble, s'il a eu le texte et il a décidé d'illustrer quoi, etc. Je ne sais pas du tout comment ça s'est fait, hélas. Touchons du bois pour que un de ces quatre, nos agendas concordent et qu'on ait la réponse
ce à serait ça. Bien. Exactement.
C'est vraiment un livre à lire, vraiment. Super livre.
Oh ouais. Ouais, ouais. Et vous en apprendrez plein sur plein d'animaux, des chiens, des éléphants, voilà, plein de... des rats, des pigeons. Voilà, on passe par vraiment... tous les animaux qui ont servi et qui ont été importants à travers l'histoire.
Super, ben on mettra les liens sur le site internet et sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil.
Impeccable, ben écoute, je te propose qu'on se quitte en musique.
Vas-y, tu laisses choisir la chanson, tu veux quoi comme en guise de générique de fin.
Allez, écoute, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir se quitter Et là, j'en ai strictement aucune idée. Ah bah si, tiens, j'ai envie qu'on se quitte sur Le Freak, c'est chic. Freak,
ah, tu vois ? Très bien, excellent.
Voilà.
Très bonne idée, bah, écoute, parfait.
Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, James.
Allez, et bah, chers auditeurs, restez connectés. Hein, notre nouvelle émission va vous faire un petit teaser dans les jours qui arrivent. Une émission qui durera une petite heure et qui pourra parler d'un sujet... un sujet à chaque émission, un sujet différent, une épopée, un cinéma, une cinépopée de la pop culture différente à chaque émission. Restez connectés et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! Allow us.
Tu reconnais ça au moins?
Chris, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu chantes Indiana Jones?
Ça, tu reconnais?
Alors, je vais vraiment être très sympa. Je vais dire Harry Potter parce que les trois premières notes ont été très bonnes, mais les 27 qui ont suivi derrière, c'était catastrophique. Et qu'est-ce qui t'arrive là, aujourd'hui, là? Tu es en train de me chanter du Indiana Jones, me chanter du Harry Potter. Tu as quelque chose à m'annoncer, quelque chose à... Tu veux m'inviter quelque part?
Non, je participe au casting de ta nouvelle émission. Tu m'as parlé de ta nouvelle émission qui s'appelle Cinépopée. Et je te montre que je connais mes classiques. Et que je peux donc participer à ton émission.
Eh bien, écoute, ben voilà, ben écoute, tu es engagé pour cette émission. Cinépopée, effectivement, une nouvelle émission disponible sur le Radioverse et en podcast très bientôt. Une émission qui reprendra toutes les épopées cinématographiques, telles Harry Potter, telles Indiana Jones, telles Star Wars. On en discutera tous les deux avec Chris pendant une heure. On jouera, on se posera des petites questions et on sacrera toutes les semaines un champion. On vous donnera les critiques à l'époque, qu'est-ce que les gens en ont pensé. On vous donnera également des petites anecdotes de tournage que peu de personnes savent et qu'on aura réussi à vous dénicher. Donc on vous donnerait rendez-vous très prochainement pour notre nouvelle émission Cinépopée.
Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas. C'est pas mal ça, non, comme slogan?
Et ça, c'est beau. Cinépopée, la petite histoire des grandes sagas.